Seigneur notre Dieu, merci pour cette matinée que tu nous as déjà parlé, tu nous as déjà nourris. Merci pour ces messages véhiculés à travers mes frères et sœurs. Que ces paroles que nous avons partagées ce matin soient des messages provenant de toi, allant dans notre cœur, nous aidant à nous transformer jour après jour, vivant dans la paix et réalisant la profondeur de la grâce que tu nous accordes. Je remets entre tes mains ce message que nous allons partager ensemble, qui prévient du frère qui nous a quittés, mais qui est dans la gloire, David de Wilkerson. Que ce message qui m'a d'abord le premier touché, et que ce message puisse toucher aussi mes frères et sœurs. Je te prie de nous bénir ensemble en toi, en ton saint nom. Amen. Avec le titre de ce message que je vais partager avec vous, donc vous avez bien compris, donc, qui vient d'un homme de Dieu que je crois que la plupart des chrétiens connaissent, hein, donc, par son film que vous connaissez, La Croix et le Poignard. Je ne sais pas si vous avez vu, nous on l'a regardé avec des enfants, c'est très parlant. Et bien le ministère que Dieu a confié à cet homme de Dieu, qui se considère comme un petit aussi, vous voyez, c'est souvent le cas, hein, des hommes de Dieu. Dieu œuvre à travers eux, mais ils disent non, je ne suis rien du tout. Et bien ce message m'a parlé moi le premier, parce que peut-être, ce n'est pas votre cas, mais quelque part, me parle de ma propre cheminement. Parce que je n'étais pas toujours parfait, loin de là. La perfection n'existe pas, plutôt le contraire. Et bien dans nos cheminements, des fois, ça peut arriver qu'on s'éloigne du Seigneur, dans le monde. Différentes manières, il y en a plus graves que d'autres, mais on va dire que le principe est le même. Et souvent, on est confronté à la question, est-ce que le Seigneur nous pardonne avec tout ce qu'on a fait? Ouh là là, c'est tellement grave! C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais humainement, oui, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et le frère David Wilkerson est parti de ce passage que je vous ai lu en long, très long, en fait, je l'ai mis dans son contexte, je vous l'ai dit ce matin, mais lui se base sur Hébreux 6, versets 4 à 6. Oui, 4 à 6. Je vous les relis. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça peut paraître comme des paroles désespérante. Ben oui, quand on a rencontré le Seigneur, quand on a reçu l'Esprit, et on rejette tout, et on va dans le monde, est-ce qu'il y a un peu d'espoir encore pour nous? Ça peut nous parler aujourd'hui, à nous, comme ça peut parler à des connaissances que nous avons, des voisins, des chrétiens, je ne sais pas. Mais je trouve que ce message-là, je voulais vraiment le partager avec vous, parce que... Alors la version complète, je l'ai déposée sur le site internet de l'Église. Vous allez sur le blog et vous avez le texte. Mais en même temps, il y aura l'enregistrement. Donc vous pouvez lire ce texte-là que j'ai déposé. Voilà ce que le frère David Wilkerson écrit, ou dit d'abord. Je connais un certain jeune homme qui vit dans une crainte constante, une peur constante. Ses sentiments étranges ont commencé pour lui le jour où il s'est éloigné de Dieu. Ce jeune homme avait été sauvé d'une façon glorieuse et rempli du Saint-Esprit. Il avait témoigné de la grâce et de la puissance de Dieu dans sa vie. Et il aurait été un témoin vivant, encourageant plusieurs personnes dans l'Église, témoignant de l'amour de Dieu tout autour de lui. Puis un jour, sans savoir pourquoi, il a déclaré « J'en ai assez, je ne veux plus de cette vie ». Il raconta à tout le monde qu'il en avait assez des chrétiens. Et il en voulait à Dieu, qui ne répondait pas à ses prières. Il déclara à son pasteur, « Tout ce que vous prêchez met une culpabilité sur moi. Je veux profiter de la vie, boire un peu, avoir certains plaisirs, aller dans certains endroits de temps à autre. Je n'irai pas trop loin, je veux juste un peu de bon temps. Au pire, un peu de compromis, un peu de religieux, mais un peu du monde. » Mais petit à petit, il se détourna de la foi. Veuillez noter que ce jeune homme n'était pas spirituellement aveugle. Il possédait un fondement biblique solide. Il avait été équipé avec la vérité de la parole. Il avait permis au Saint-Esprit de travailler en lui et de le convaincre. De plus, il avait expérimenté la joie en le servant. Aujourd'hui, Ce même jeune homme est l'opposé d'un chrétien. Il a profondément plongé dans une vie de péché. Il porte sur lui une tristesse qu'il essaie de cacher dans la boisson, peut-être. Il se rend dans certains endroits pour trouver la joie, en oubliant sa foi passée, qui le culpabilise peut-être. Mais cela le laisse encore plus vide. Il a connu plusieurs femmes, mais il reste cependant encore plus seul et désespéré à chaque fois. Il était chrétien. Ce chrétien d'hier est dans une chute spirituelle profonde, pleinement conscient. Il devient lentement peut-être un alcoolique. Il pleure quand il se rend compte de ce que sa vie est devenue. De plus, une crainte l'envahit lorsqu'il pense que Dieu l'a abandonné. Il est convaincu qu'il a franchi la ligne du non-retour. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit « J'ai tellement péché et rejeté la bénédiction, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. » Il se voit comme étant trop loin, trop enchaîné dans le péché pour revenir vers Dieu. À un certain moment, il m'écrivit une lettre me racontant qu'il était hanté par toutes les prédications qu'il avait entendues. Il se voyait dans la mise en garde de Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Finalement, au plus profond de son désespoir, il décida de retourner à l'église une dernière fois en quête d'espoir. Cependant, le serment qu'il entendit ce jour-là le choqua au plus haut point. Le passage de l'Écriture provenant d'Hébreux 6, 4 à 6 que je vous ai lu tout à l'heure. Il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Pour ce jeune homme, cette description lui allait parfaitement. Il avait été éclairé par la parole de Dieu. Il avait goûté le don céleste. Il avait expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, il raisonnait, « J'ai crucifié Jésus une nouvelle fois, et même quotidiennement. » Ces paroles continuaient à résonner dans ses oreilles. « Il est impossible pour une personne comme moi de revenir à nouveau à Dieu. » Cette prédication avait enlevé toute lueur d'espoir chez lui. Ce jour-là, lorsqu'il est sorti de l'église, il s'est senti condamné à jamais. Il ne pouvait pas argumenter avec l'Écriture. Il pensa qu'il était maintenant obligé de vivre le restant de ses jours dans le désespoir. Aujourd'hui, des milliers de croyants sont tombés dans la même condition que ce jeune homme. À un certain moment dans leur vie, ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés de Dieu, en péché et sont déchus de la grâce. Maintenant, ils vivent en parfaite opposition de cette lumière qu'ils ont reçue un jour. Et ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus jamais revenir et être sauvés. Est-ce que cette description vous concerne ou concerne quelqu'un de votre entourage? Si tel est le cas, j'aimerais vous donner le même message que j'ai donné à ce jeune homme. Depuis 40 ans, j'ai vu des multitudes de gens sans espoir venir à Christ. J'ai témoigné à des milliers de gens pour qu'ils viennent à Christ. Plusieurs de ces âmes étaient dans un désespoir total. Parmi eux, des drogués, des alcooliques, des voleurs, des homosexuels, des prostituées, des athées, des adorateurs de Satan, des criminels, des membres de gangs. J'ai vu de mes yeux ces personnes changer merveilleusement par la puissance de Christ. Ils reçurent la guérison, le renouvellement, une libération totale de leurs liens, et ils grandirent d'une façon puissante dans la parole de Dieu et de sa grâce. Cependant, il arriva que Satan séduise certains d'entre eux et les ramène dans leur ancien style de vie. Une fois qu'ils sont tombés, Satan leur souffle aux oreilles. Tu es trop lié pour être délivré. Tu es maudit. Il n'y a pas d'espoir. Tu ne peux plus retourner vers Jésus. Je pense tout particulièrement à un jeune couple qui est venu vers nous lorsque nous exercions le ministère dans la rue. il y a des années. Jacques et Marie Thomas. Jacques et Marie Thomas. Ils avaient vécu dans la rue en tant que drogués, volant pour subvenir à leurs besoins d'héroïne. Lorsque nous les avons rencontrés, ils étaient comme morts, hors de sens. Jacques était tellement submergé par la drogue qu'il ne se souvenait même pas de son nom. Marie était une alcoolique. Elle avait la peau sur les os, sur les os. Cependant, Dieu accomplit un travail merveilleux dans leur vie. Tous les deux furent sauvés. Puis le Seigneur les restaura physiquement, amenant de la couleur sur leur visage. Il restaura également leur faculté mentale. Jacques en particulier était très intelligent. En peu de temps, il apprit le grec et l'hébreu. Nous les envoyâmes tous les deux dans une école biblique, où Jacques étonna ses professeurs. Son professeur d'hébreu lui dit, « Je ne peux plus vous enseigner, car vous connaissez déjà plus que moi. » Après leur diplôme, Jacques et Marie partirent pour la Californie, où ils démarrèrent un ministère dans les prisons. Ils travaillèrent ensemble pendant 12 ans, exerçant le ministère à des centaines de prisonniers. Jacques prêchait et enseignait la Bible pendant que Marie conseillait les femmes en difficulté. À nos yeux, ce couple merveilleux était les trophées de la grâce de Dieu. Ils se tenaient comme des exemples de la puissance de Jésus qui peut transformer les vies les plus désespérées. Mais sans savoir comment, après des années au service du Seigneur, avec des bénédictions, Marie se découragea. Et Satan réussit à la séduire pour retourner dans l'alcoolisme. Les jours qui suivirent furent l'enfer pour le couple Thomas. Pendant que Jacques exerçait le ministère dans les prisons, Marie se rendait dans les bars. Quelquefois, elle restait dehors toute la nuit. Quand elle revenait à elle, elle lui disait « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis retombée dans ses habitudes. Je ne peux pas m'arrêter. » Puis une nuit, Marie disparut et Jacques ne peut plus la trouver. Plusieurs semaines passèrent. Jacques était si découragé que nous l'invitâmes au Texas. Je n'ai jamais vu un homme aussi blessé, mais il me dit, « Je ne m'arrêterai pas à cause de cela, je sais ce que Dieu a fait pour nous. » 3 jours plus tard, Marie appela depuis un hôpital. La police l'avait trouvée à moitié morte au milieu de la rue. Elle s'était prostituée et on l'avait battue. Jacques se rendit sur les lieux et la ramena dans notre ranch pour récupérer. Lorsqu'ils rentrèrent, personne ne reconnut Marie. Son visage était gonflé, ainsi que ses lèvres, sa peau noire et bleue. Après un certain temps de restauration, nous avons tous manifesté de l'amour envers elle, mais elle ne pouvait pas l'accepter. Elle connaissait Hébreux 6, versets 4 à 6. Elle le connaissait ce passage par cœur. Et elle nous le ressortait. « C'est impossible, c'est impossible !» Elle savait qu'elle avait goûté du céleste. Maintenant, elle savait qu'elle crucifiait le Sauveur à nouveau. Tout ce qu'elle pouvait nous dire, « C'est fini pour moi. J'ai un jour prêché à d'autres et regardé ce que je suis devenu. J'ai rejeté Jésus et son amour. J'ai péché contre la lumière. Il ne peut plus me pardonner. » Elle pensait qu'elle était destinée à retomber dans ses habitudes et elle termina ses jours dans la rue. Maintenant, tout ce qu'elle désirait était de mourir. Je reviendrai sur l'histoire de Marie, mais pour l'instant, j'aimerais examiner la signification de cette phrase. Il est impossible. Pour qui exactement il est impossible? Il est impossible pour quelques prédicateurs que ce soit d'atteindre quelqu'un dans cette condition, peut-être. Marie Thomas savait que je l'aimais. Elle me respectait en tant que ministre de la parole de Dieu. Néanmoins, Marie ne se laissait pas atteindre. Aucune promesse de la parole de Dieu ne pouvait la toucher. Même l'amour de son mari et sa compassion ne l'éteignaient pas. Ses oreilles semblaient fermées, son cœur endurci, son âme incapable d'une conviction. Il est très angoissant d'essayer de témoigner à un croyant qui est retombé si fort dans le péché. Il semble que plus la personne a été spirituelle, et plus il est difficile de la toucher lorsqu'elle tombe. Son cœur demeure comme un roc. Jérémie a prophétisé concernant cette condition. Et il cite Jérémie, chapitre 7, verset 27. De la même façon, Jésus avertit ceux qui endurcissent leur cœur. Et je vous invite à lire Matthieu, chapitre 13, verset 15. J'ai vu des multitudes de gens faibles répondre à mes appels, incluant les pécheurs les plus éloignés de toutes sortes. Avant de venir au Seigneur, ces personnes étaient endurcies dans leurs péchés. Cependant, elles n'étaient pas endurcies vis-à-vis de l'Évangile, comme les croyants décrits dans Hébreux 6, versets 4 à 6. Je vous le dis, il est impossible à quelques ministres que ce soit d'atteindre cette catégorie de croyants qui sont tombés. Pourquoi ? Ils ont permis au diable de les convaincre. Tu as péché trop souvent contre la lumière, maintenant il est trop tard pour toi, tu ne peux plus être éteint. Je connais un jeune pasteur, un homme superbe, un homme marié à une jeune femme charmante. Ce ministre était très efficace dans le témoignage ici, dans les rues de New York. La prédication de ce pasteur gagna plusieurs drogués pour Jésus. Il était un enseignant engagé auprès de ces drogués et alcooliques qu'il amenait au Seigneur. Mais un certain jour, ce pasteur commença à jouer avec la pornographie. Oh, c'était une fois. Il se repentait. Oh, deux fois, trois fois, quatre fois. Il fut saisi et cela lui enleva sa vie spirituelle. Lorsque sa femme découvrit cela, il lui déclara, je ne vais pas me séparer de cela. Au contraire, il désirait qu'elle aussi s'engage dans ses voies. N'oublions pas qu'il était pasteur. Elle était horrifiée. Lorsqu'il vit son refus, il se mit en colère et commença à sortir avec une autre femme. Pendant des semaines, cette femme plaida avec son mari. « Tu sais que tu ouvres ton âme au diable ? Si tu n'arrêtes pas, c'est Satan qui va te posséder. » Mais il ne désirait pas écouter. Finalement, sa femme me supplia de lui parler. Je le fis, lui rappelant son ministère, le travail accompli au travers de sa vie, mentionnant les mises en garde de la parole et notre amour pour lui. Il me répond, « Il est trop tard. Je suis un drogué. J'ai quitté le ministère, je n'aime plus ma femme. Je ne peux plus revenir maintenant. » Puis il me fait remarquer qu'en péchant, il avait crucifié Jésus une nouvelle fois. Et il était impossible pour lui d'être réconcilié avec Dieu. J'argumentais avec lui. Peu importe ce que tu as fait, Jésus a toute la puissance pour te libérer. Nous pouvons prendre autorité sur ces liens en son nom et Dieu te délivrera immédiatement. Mais il secoua la tête et refusa. Il ne pouvait pas être persuadé aujourd'hui. Il est marié à une sorcière. Il ne pouvait pas être persuadé. Aujourd'hui, il est marié à une sorcière et il se trouve profondément impliqué dans l'occultisme. Il est complètement perdu. L'amour humain et le raisonnement humain ne peuvent pas briser l'emprise de ce genre de péché. Je reviens à Marie Thomas. Marie Thomas comprenait très bien que le salaire du péché était la mort. Elle savait également que chaque péché qu'elle commettait était enregistré et ajouté à son fardeau de culpabilité. Quelques mois auparavant, cette même femme avait mis en garde les autres afin qu'ils s'éloignent du péché et qu'ils ne tombent pas sous le jugement de Dieu. Mais toutes ces choses ne voulaient plus rien dire pour elle maintenant. Plusieurs rétrogrades m'ont dit « Pourquoi la pensée de l'enfer devrait me soucier ? Je suis déjà en enfer. » Dans un sens, ils ont raison. C'est l'enfer de se réveiller tous les matins avec un nuage sur votre tête. C'est l'enfer d'être esclave d'une habitude que l'on ne peut pas contrôler, vivant comme les animaux, recherchant seulement le plaisir. Après quelque temps, ils se retrouvent vides. Les drogues, le sexe, les plaisirs ne veulent plus rien dire. Cela ne leur amène même plus de la joie. Au lieu de cela, ils sont poussés à dire « Je vis en enfer ». C'est l'enfer de perdre la foi et toute espérance, de perdre sa famille et ceux qu'on aime. Finalement, vous êtes seul avec vous-même et votre péché. Vous êtes séparé de Dieu et pleinement conscient que vous l'avez renié. Alors vous passez vos journées espérant le soir et vos nuits attendant le matin. Oui, vous avez péché contre cette extraordinaire lumière. Vous avez goûté de la parole merveilleuse de Dieu et vous crucifiez Jésus chaque jour. Vous vous éloignez de la croix chaque jour, vous enfonçant toujours dans le péché. Oui, il est impossible pour un prédicateur ou pour vos bien-aimés de vous mettre en garde et de vous amener à la repentance. Cependant, vous avez compris qu'il y a de l'espoir. Cependant, dans l'Écriture, est-il mentionné qu'il est impossible pour Dieu de faire son travail en vous? C'est ça qu'on trouve dans aucune autre religion. Jésus nous dit qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles avec Dieu. Il suffit de lire Luc chapitre 18, verset 27. Aucune personne n'a été trop loin que le Seigneur ne puisse la sauver. Avec une exception, en gras, avec une exception, la personne qui a commis le péché impardonnable. Ce péché arrive lorsque le croyant se moque du travail du Saint-Esprit comme étant le travail de Satan. Cette personne, à ce moment-là, a effacé complètement Christ de son cœur. Cette personne ne peut plus jamais être restaurée. Bien sûr, ceux qui craignent d'avoir commis le péché impardonnable ne l'ont pas commis. Comment puis-je me rendre compte de cela? L'épreuve est le fait qu'il soit concerné à ce sujet. Vous voyez, pour commettre le péché impardonnable, demande une conscience totalement aveuglée. Et dans ce cas, l'amour de la personne pour Jésus est remplacé par une haine de Dieu. Cette personne lève le poing contre Dieu, disant « Je ne veux plus entendre parler de toi à nouveau ». Elle désire même que Dieu l'envoie en enfer. Cette sorte de personne est tout ce qui est saint et pur. Et elle cherche une opportunité de crucifier Jésus à nouveau. Elle se moque de tout ce qui a trait avec Dieu, allant jusqu'à dire, parfois, que Jésus est homosexuel. Et c'est déjà arrivé. Cependant, la parole de Dieu ici se réfère à un traitement humain. Aucune puissance sur la terre ne pouvait guérir cette blessure. C'était impossible, mais cela n'est jamais impossible pour Dieu. Juste deux versets plus loin, dans un passage dans Jérémie chapitre 30, Jérémie 30, versets 12 à 15. Voilà, vous lisez Jérémie chapitre 30, versets 12 à 15. Quelques versets plus loin, le Seigneur déclare dans le verset 30 du chapitre, verset 17 du chapitre 30 de Jérémie, Jérémie 30, verset 17, le Seigneur déclare à ces mêmes personnes incurables, je restaurerai ta santé et je guérirai tes blessures car il t'appelle la délaissée, cette Sion dont nul ne prend souci. Dieu disait à son peuple, tout le monde est sans espoir en ce qui te concerne. Car tu es allé trop loin. Il te voit comme un enfant perdu, sans espoir, abandonné. Mais à cause de cela, je vais te guérir. Tout le monde dit que tu es rejeté, mais je vais te restaurer. J'aurai de la compassion pour toi et je guérirai toutes tes blessures. C'est exactement ce que le Seigneur a fait pour Marie Thomas. Les gens l'avaient abandonné. Même ses meilleurs amis. Il ne pouvait plus supporter sa condition. Elle n'était plus un témoignage. Il la voyait comme une personne qui ne veut plus se repentir. Une alcoolique, une prostituée, et croyait que Dieu l'a laissée dans son péché. Il disait, Jacques, son mari, devrait divorcer et la placer dans une institution pour se soigner de l'alcoolisme, se débarrasser d'elle. Même la dévotion de Jacques commençait à faiblir à son égard. Un jour, il me confia, je me sens désespéré. Je ne sais pas si elle s'en sortira un jour. Bien-aimé, le monde peut vous rayer de la carte. Même votre famille et vos amis peuvent abandonner. Mais les promesses de Dieu, je ne te l'abandonnerai jamais. Je vais te sortir de là. Je te guérirai, je guérirai toute chacune de tes blessures dans ton corps et dans ton âme. Cette promesse ne disparaît pas. Rien de ce que l'on avait pu lui dire ne sortit Marie de son état. Aucune intervention humaine, même par le meilleur pasteur, n'a libéré Marie. Elle ne pouvait pas être touchée par l'amour, la compassion ou la crainte. Mais un miracle commença pour cette femme désespérée. Lorsqu'elle osa laisser un cri intérieur se produire, son cri consista en deux mots. « Seigneur, aide-moi !» Elle ne pouvait même pas prier. Elle ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Cependant, à l'intérieur, encore et encore, elle criait « Jésus, aide-moi !» Finalement, elle commença à s'exprimer. « Seigneur, je suis tellement loin, tellement sale, tellement pécheresse, tellement enfoncée dans le péché. S'il te plaît, aide-moi, ou je suis perdue pour l'éternité. » Les cris de Marie faisaient écho avec ceux de David, le roi David. Dans le psaume 130, verset 1, voilà le cri de David. « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Dieu. Seigneur, je suis tellement loin. » Oui, je reviens à Marie. Et David d'ajouter dans le psaume 120, verset 1, « Dans ma détresse, je crie à Dieu. » Et il entend ma voix. Comme David, Marie exprima son cri et Dieu l'entendit. Un jour, comme par surprise, les larmes commencèrent à couler du visage de Marie. Le Saint-Esprit remplissait la pièce et toutes les craintes et son désespoir s'enfuirent. La puissance du pardon de Christ coula sur son âme et lava toute la saleté, l'angoisse et la culpabilité. Bientôt, la joie remplit son âme et elle commença à rire et à se réjouir. Nous l'avons tous admirée avec stupéfaction alors qu'elle pouvait à nouveau lever les mains et louer Dieu. Toutes les personnes présentes ce jour-là savaient que le Seigneur avait commencé un travail incroyable sur Marie, la sanctifiant et changeant sa vie entière. Voilà les fruits de la repentance. Jacques et Marie retournèrent en Californie où ils reprirent leur ministère parmi les prisonniers. Leur mariage et leur famille furent glorieusement restaurés et ils expérimentèrent la pleine bénédiction de Dieu dans leur vie. Jacques Thomas, le mari, mourut. Cet homme alla vers son sauveur, il était un serviteur aimant et fidèle. Marie continua le ministère parmi les prisonniers et quelques mois plus tard mourut aussi à son tour. Par la grâce de Dieu et sa puissance, Marie Thomas partit dans la gloire avec son mari. En qualité de puissante guerrière pour Jésus, la puissance de la repentance. Sa vie et son témoignage se rapportent à Luc 18, verset 27. Avec Dieu, rien n'est impossible. Les fruits de la repentance. Peut-être comme Marie, vous vous êtes éloigné de la grâce. Vous croyez que certains vous ont abandonné et vous sentez perdu et oublié. David a dit que les gens l'ont abandonné aussi. Et il n'y a personne pour le délivrer. Il suffit de lire Psaume chapitre 71, verset 11. Alors que fit David? Il fit ce que Marie Thomas a fait. La repentance. Il cria du fond du désespoir. « Oh Dieu, aide-moi !» Psaume 71, 12. Le Seigneur entendit le cri de David et le délivra. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. La repentance du roi David, psaume 71, versets 20 et 21. Peut-être qu'Hébreu, chapitre 6, versets 4 et 6, vous condamne. Peut-être vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être que Hébreux 6, versets 4 à 6, vous a convaincu que vous ne pouviez plus revenir vers Dieu, ni vous repentir. Vous ne pouvez même pas croire que Dieu peut vous pardonner parce que vous avez crucifié Jésus quotidiennement. Vous pensez que votre péché est trop profond et que vous êtes trop esclave pour être délivré. Je vous le dis, vous n'avez pas causé plus de chagrin à Dieu qu'Israël. Dieu appelle ces gens des nuques raides. Ils sont allés jusqu'à se fabriquer un idole devant leur Dieu. Il n'y a pas d'autre blasphème. C'était des idolâtres. Déclarant, et Dieu a déclaré, Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. La colère de Dieu. Dans Exode, chapitre 32, versets 9 à 10. Cependant, les Écritures déclarent que Dieu s'est repenti de sa colère contre son peuple quand il se repent. Au lieu de cela, il a déclaré, « Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Chapitre 32 de l'Exode, versets 12 à 14. Les fruits de la repentance. À chaque fois que Dieu entend nos profonds pleurs, pleins de remords, la repentance, son cœur est bouleversé. Et il répond fidèlement à nos cris. Nous restaurons, nous guérissons et nous renouvelons dans la repentance et c'est mis en gras. Vous pouvez être tenté de mettre un terme à vos cris vers lui. Vous pensez, si Dieu peut me sortir de ce puits, je peux sûrement attendre un peu et être encore indulgent. Pourquoi me repentir aujourd'hui? À quelques jours, je profite. Mais la Bible nous dit, aujourd'hui est le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Ne pensez pas que vous pouvez attendre un autre moment pour crier au Seigneur. Le temps pour votre renouvellement est maintenant. Criez à Dieu aujourd'hui. Il est fidèle pour vous délivrer et pour vous restaurer tout ce que l'ennemi a dévoré. Il est impatient de vous donner un nouveau cœur. Il vous attend. Il vous attend pour un nouveau commencement. Rien n'est impossible avec Dieu. Amen. Amen.